La contingence dans les lois de la nature et la liberté dans l'homme selon Épicure. Selon Épicure, il est deux idées également capables de troubler l'esprit humain et dont il importe également de se délivrer pour jouir de la sérénité intellectuelle. La première, c'est la croyance à quelque divinité agissant sur le monde et sur l'homme. La seconde, la croyance à une nécessité universelle régissant la nature. On connaît la lutte des épicuriens contre les dieux et leur prétendue providence. Ce qui n'est peut-être pas aussi bien connu, malgré Gassendi et Bell, malgré les savantes études de M. Ravaisson et de M. Zeller, c'est la lutte d'Épicure contre l'idée de nécessité. Cette partie de son système est originale et d'autant plus intéressante qu'elle rappelle par plusieurs points des doctrines contemporaines. Nous essaierons d'exposer ici la conception d'Épicure sans prétendre l'apprécier autrement qu'au point de vue de son importance historique et de son originalité. Il était encore meilleur, dit Épicure, d'ajouter foi aux fables sur les dieux que d'être asservi à la fatalité des physiciens. La fable, en effet, nous laisse l'espérance de fléchir les dieux en les honorant. Mais on ne peut fléchir la nécessité. Épicure a eu, comme on voit, un vif sentiment de l'effet produit sur l'esprit humain par la conception du déterminisme scientifique, d'autant plus que l'école rivale de la sienne, l'école de Zénon, fondait sa doctrine sur cet universel enchaînement des causes et des effets. D'autre part, Démocrite le physicien, son prédécesseur et son maître, affirmait aussi que « toutes choses se font dans le monde selon la nécessité ». Après avoir renversé les dieux du paganisme, Épicure voit donc se lever devant lui ce Dieu inconnu et mystérieux, auquel les théologiens antiques soumettaient Jupiter même, ce Dieu à la sombre figure, fils du chaos et de la nuit, assis immobile au fond de l'Olympe, qu'on représentait sans yeux, car il ne voit point ce qui l'écrase, et la tête couronnée d'étoiles, car sa puissance s'étend aussi loin que les dieux. C'est cette divinité, figurant la force fatale de la nature par opposition aux efforts impuissants de la volonté humaine, qu'Épicure se propose de combattre à son tour, divinité d'autant plus redoutable que son pouvoir s'étend partout à la fois, au-dedans de nous comme au-dehors, et sur nos propres pensées, sur nos propres actions. Imaginez au-dessus des choses les dieux, c'était s'asservir. Mais expliquer toute chose, y compris soi, par des raisons nécessaires qui excluent notre pouvoir personnel, ce serait faire plus encore, ce serait se supprimer soi-même. Puissance absolue des dieux éternels ou puissance absolue des lois éternelles, voilà l'alternative. Impuissance de l'homme, voilà la conclusion. De toutes parts, égal obstacle au bonheur. Comment donc trouver un principe capable de rompre les liens du destin et qui empêche la cause de suivre la cause à l'infini? Tel est le problème dans les termes mêmes où les épicuriens l'ont posé. Ce n'est autre chose que la question toujours pendante de la liberté ou du fatalisme, de la contingence ou de la nécessité universelle. 1. Placé entre les dieux du paganisme et la nécessité des stoïciens ou des physiciens, Épicure ne vit qu'un parti à prendre. Si tous les êtres avaient naturellement, en eux-mêmes, au lieu de l'emprunter du dehors, une puissance spontanée, d'où dériverait leur propre mouvement, n'échapperait-on pas ainsi à l'enchaînement universel des causes et des effets. La nature, dans son fond, ne pourrait-elle pas être conçue à la fois sans les dieux et sans la nécessité? De tout temps, le vulgaire, malgré Socrate et Platon, avait placé dans l'homme, sous la forme de libre arbitre, une puissance qui, pour un spectateur du dehors, apparaît comme un hasard. Mais on n'avait pas songé à mettre une puissance analogue dans les êtres inférieurs à l'homme, à introduire par cela même la contingence dans la nature comme dans l'humanité. Épicure, en s'efforçant de le faire, va entrer dans une voie toute nouvelle. C'est sur ce point surtout qu'il pouvait affirmer avec vérité ne devoir qu'à lui-même sa philosophie. Par là, il voulait à la fois détruire la nécessité et le pouvoir des dieux. Cicéron, Lucrèce, Plutarque nous diront tous de la manière la plus formelle que la principale hypothèse d'Épicure, celle d'une puissance spontanée de déclinaison inhérente aux êtres, avait pour but de rendre possible, de sauver notre pouvoir sur nous-mêmes, notre liberté. Pour construire cette curieuse théorie du monde, Épicure commence par accepter en partie la doctrine atomistique de Leucippe et de Démocrite. Toutefois, à la conception du chaos primitif, il apporte un premier changement. Démocrite avait considéré tout mouvement comme le résultat d'un choc fatal et d'un rebondissement des atomes non moins fatal. Épicure nie que tout mouvement est ainsi sa première et unique origine dans la communication d'un autre mouvement par le choc dans l'impulsion. Cette doctrine, en effet, outre qu'elle implique à ses yeux une contradiction en admettant un mouvement antérieur au mouvement même, introduit partout une absolue nécessité. Le choc, pour Épicure, n'est qu'un effet ultérieur, qui suppose un mouvement antécédent. Quel sera donc le principe de ce mouvement? Pour le trouver, il faut d'abord passer du dehors au dedans, de la violence externe à l'impulsion interne. Celle-ci n'est autre chose, selon Épicure, que la pesanteur. La pesanteur, dit Lucrèce, empêche que tout ne se fasse par voie de choc, comme par une violence extérieure. La pesanteur est donc déjà une cause de mouvement intime, moins visiblement matériel, où la fatalité, si elle existe toujours, devient inhérente à la nature même des êtres, et semble prendre un caractère plus spontané, sinon plus véritablement libre. Toutefois, cette seconde explication du mouvement paraît encore insuffisante à Épicure, précisément parce qu'elle présuppose encore une idée de loi nécessaire. La pesanteur, en effet, a une direction déterminée suivant une loi invariable. La ligne qu'elle suit est soumise au théorème des mathématiques. S'il n'était animé que par cette seule force, les atomes emportés parallèlement avec la même vitesse pendant l'éternité tomberaient comme des gouttes de pluie dans la profondeur du vide. Au point de vue purement mécanique où s'arrête cette hypothèse, la nécessité peut se représenter par la ligne droite. Les principes des choses, entraînés par la pesanteur, persévéreront éternellement dans le mouvement commencé, tant qu'une autre force ne viendra pas brusquement courber la ligne rigide qu'ils tracent à travers l'espace. Mais où trouver cette force? Ici, Épicure fait appel à l'expérience intérieure. Il cherche en nous le principe de mouvement qui, transporté au fond de toute chose, donnera enfin l'explication cherchée. L'observation d'où part Épicure, c'est que nous distinguons en nous-mêmes deux sortes de mouvements impossibles à confondre, le mouvement contraint et le mouvement spontané. Être mu n'est pas tout, nous savons aussi par expérience ce que c'est que se mouvoir. Nous sommes avertis de l'un par un sentiment tout différent de celui qui nous révèle l'autre. C'est de la volonté de l'esprit que le mouvement procède d'abord. De là, il est distribué par tout le corps et les membres. Et ce n'est plus la même chose que quand nous marchons sous le coup d'une impulsion, cédant aux forces supérieures d'un autre et à une contrainte violente. Car en ce cas, il est évident que toute la matière de notre corps marche et est entraînée malgré nous, jusqu'à ce qu'elle ait été réfrénée à travers les membres par la volonté. Ne voyez-vous pas, alors, quoique souvent une violence extérieure nous pousse, nous force à marcher malgré nous et nous entraîne en nous précipitant, ne voyez-vous pas que, cependant, il y a dans notre cœur quelque chose qui peut lutter contre elle et se dresser en obstacle? À son arbitre, la masse de la matière est aussi forcée parfois de se fléchir à travers les membres, à travers les articulations. Poussée d'abord en avant, elle est réfrénée et ramenée en arrière, elle est réduite au repos. Une seconde preuve de l'opposition entre le mouvement volontaire que nous révèle l'effort et le mouvement fatal des organes, c'est, suivant les épicuriens, le contraste qui existe parfois entre l'élan immédiat de la volonté et son exécution plus lente dans la matière rebelle. Tous les êtres animés en sont un exemple. Ne voyez-vous pas, quoique la carrière soit devant lui ouverte en un instant, que l'impétuosité ardente du coursier ne peut s'élancer aussi soudainement que le désir l'âme même? C'est que toute la masse de la matière, à travers le corps entier, doit être recueillie, rappelée dans tous les membres, pour qu'une fois rassemblée, elle puisse suivre l'élan de l'esprit. Voilà les faits d'expérience intime invoqués par Épicure, et qui nous obligent à reconnaître en lui, de la manière la plus inattendue, un prédécesseur de Maître de Biran. Maintenant que ces faits observables par une induction fondée sur le principe de causalité, Épicure va passer à la considération de l'univers. Il n'y a rien sans cause, et quelque chose ne peut pas venir de rien. Voilà le principe. Donc, le pouvoir qui est en nous doit avoir sa cause et se retrouver dans les germes des choses, dans les semences de vie ou atomes. Donc, il ne faut plus se représenter les atomes comme inertes et morts, mais comme portant en eux la puissance de se mouvoir. C'est pourquoi, dans les germes des choses, il faut avouer qu'il existe également, outre le choc et outre la pesanteur, une autre cause de mouvement, de laquelle nous est venue à nous-mêmes cette puissance qui nous est innée, car de rien nous voyons que rien ne peut sortir. Il existe donc en définitive, d'après Épicure, et le témoignage de Cicéron pourrait ici confirmer celui de Lucrèce, trois causes de mouvement de plus en plus profondes et intimes. Le choc, qui est à la fois extérieur et fatal, la pesanteur, qui est intérieure, mais paraît encore fatale, et enfin la volonté, qui est tout à la fois intérieure et libre. Cette volonté se manifeste par le pouvoir de faire décliner le mouvement, de lui faire quitter la ligne droite où la fatalité le poussait. C'est, en un mot, le pouvoir de s'incliner soi-même au mouvement. Pouvoir qui, dans les germes éternels des choses, sera la déclinaison spontanée, échappant à toute prédétermination de temps ou de lieu. La pesanteur empêche déjà que tout ne se fasse par choc, comme par une force externe, mais que l'âme elle-même n'ait point en soi une nécessité intestine dans toutes les actions à accomplir, et que vaincue, elle ne soit pas contrainte de tout subir et de rester passive, voilà ce qu'empêche l'imperceptible déclinaison des principes de toute chose, dont on ne peut, par le calcul, déterminer le lieu ni déterminer le temps. Revenons maintenant de la psychologie à la cosmologie. À l'origine idéale des choses, nous le savons, l'atome descendait dans le vide en vertu de sa pesanteur. Non loin de lui, d'autres atomes descendaient également solitaires. Et si la nécessité seule avait continué d'imprimer aux atomes ce mouvement, éternellement le même, le monde n'aurait pu naître. La nécessité serait inféconde. Mais, puisque nous connaissons maintenant par expérience une autre cause de mouvement que le choc et le poids, puisque c'est des germes des choses que nous vient la libre puissance innée en nous, le principe de cette puissance doit se retrouver à l'origine dans l'atome même. L'atome pourra donc tirer de soi le mouvement qui le rapprochera des autres atomes. Il pourra, s'arrachant spontanément à la nécessité qui l'entraînait, s'arracher par là à la solitude et commencer la création de l'univers. Tant que la nécessité était maîtresse de toute chose, il n'existait, à vrai dire, qu'un chaos d'atomes emportés dans le vide. Le premier mouvement, parti de l'être même, marque l'origine du cosmos. De la ligne rigide qu'il décrivait à travers l'espace et qui était comme la représentation de la nécessité, l'atome dévie spontanément, sans l'intervention d'aucune autre force, sans l'intersection d'aucune autre ligne. Déviation légère, insensible, infiniment petite. Qu'importe la quantité, pourvu que cette quantité soit obtenue, et que cette ligne nouvelle, à peine dessinée, marque l'apparition d'une puissance inhérente à l'être même, d'une nouvelle cause de mouvement dans l'univers, l'apparition de la vie. Se mouvoir soi-même, c'est vivre. Cette ligne, qui ira se compliquant peu à peu, et formera au sein du vide une première esquisse des figures géométriques, une première harmonie, c'est le raccourci de toutes les harmonies de l'univers. En agrandissant leur courbe dans la profondeur du vide, des atomes finissent par se rencontrer, se toucher. Palpitant alors sous le choc, ils bondissent et rebondissent, jusqu'à ce qu'ils se soient enlacés l'un l'autre, et cet enlacement mutuel produit enfin le repos. Ayant vaincu l'espace qui les séparait, ils font obstacle à la chute des nouveaux atomes. Ceux-ci sont arrêtés au passage et viennent grossir chaque corps déjà formé, qui se trouve être ainsi le noyau d'un monde. Le vide se peuple de formes étranges, et tous ces mondes naissent, dont l'harmonie régulière, une fois produite, nous fait croire faussement à la fatalité primitive. Dès lors, il n'est plus besoin, pour rendre raison de l'univers, de recourir à un Deus ex machina, à une cause supérieure et surnaturelle, qui deviendrait pour l'homme une puissance tyrannique. Le monde peut se passer des dieux, il peut se passer d'une intelligence ordonnatrice, conséquemment nécessitante. L'espace est infini. Les atomes sont en nombre infini. Le temps s'ouvre à l'infini devant eux. Avec ces trois infinis, qu'y a-t-il d'impossible et comment la force spontanée, existant en chaque atome, n'aurait-elle pas suffi à organiser le monde fini qui est devant nos yeux? Les épicuriens ne reculent point devant l'idée d'infini. Comme plusieurs partisans modernes de la contingence universelle, qui confondent dans la même aversion les notions d'infini et de nécessaire. Pour Épicure, l'infini est au contraire la garantie de la liberté dans l'homme et de la spontanéité dans les choses. C'est l'infinité même des combinaisons dans l'espace et le temps infini qui rend inutile l'hypothèse d'une intelligence divine, d'un plan préconçu et fatalement suivi, d'un monde des idées préexistant au monde réel et le nécessitant. L'initiative des atomes peut remplacer l'initiative d'un créateur. Leur volonté spontanée, qui deviendra liberté chez l'homme, peut se substituer à la volonté réfléchie d'un démiurge ou d'une providence. Le premier résultat remarquable de cette conception d'Épicure, c'est qu'elle agrandit le monde. Si le monde avait été créé par une volonté divine, cette volonté insondable aurait pu ne tirer du néant que ce qu'elle eût voulu, ne donner naissance qu'à la terre élue par elle et entourée par elle d'une ceinture d'étoiles et de soleil. Mais si le monde est en quelque sorte le produit de l'infini, il doit être infini lui-même. En supprimant l'idée du Dieu créateur, Épicure et Démocrite aboutissent logiquement à la conception moderne du monde, où nous ont amené si tard les découvertes astronomiques. Si notre Terre est l'œuvre des atomes, pourquoi tous ces autres atomes, placés en dehors d'elle, resteraient-ils oisifs? La nature est aussi féconde qu'elle est grande. Partout dans l'espace, la vie éclate. Dire qu'il n'y a qu'un seul monde dans l'infini, s'écriait Métrodore, c'est comme si l'on disait qu'un vaste champ est fait pour produire un épi. Au lieu d'un seul monde, il y en a donc comme des atomes, à l'infini. Je les vois se former au sein du vide, dit Lucrèce avec enthousiasme. Ces mondes, ces orbes, terrarum orbes, ont leurs habitants. Ce sont de grands corps qui se développent comme notre corps, puis meurent comme lui, pour faire place à d'autres. Tous les jours, il naît et il meurt des mondes dans l'espace infini. C'est une perpétuelle évolution, suivie d'une perpétuelle dissolution. Car Épicure ne tenait pas moins à l'idée de la dissolution des mondes qu'à celle de leur formation spontanée. Et Lucrèce revient à plusieurs reprises sur ce sujet. Un monde qui resterait perpétuellement le même aurait un caractère de divinité. On serait porté à l'adorer. Les anciens adoraient les astres. Il redeviendrait pour nous un objet de terreur superstitieuse et une nouvelle sorte de destin. Par cette persévérance à repousser du monde toute forme du divin, Épicure se rencontre naturellement avec les savants contemporains, qui considèrent la marche des choses comme produite indépendamment d'un dieu ordonnateur. Aussi les savants modernes retrouveront-ils chez les épicuriens le germe de leurs idées. Lucrèce avait parlé avant Lamarck de ces tâtonnements successifs, par lesquels les éléments cherchent à se combiner et finissent par trouver en effet une combinaison stable. Il avait parlé avant Darwin de l'existence d'espèces maintenant disparues parce qu'elles n'avaient pas su déployer assez de force, de ruse ou d'agilité pour vaincre leurs adversaires, pour se reproduire et traverser les siècles. Il avait parlé avant M. Spencer du développement des mondes semblables à celui des individus et aboutissant comme celui-ci à la vieillesse et à la mort. Enfin, c'est chez Lucrèce qu'on retrouve pour la première fois, exprimé clairement et développé scientifiquement, l'idée d'un progrès par lequel l'humanité s'avance pas à pas vers le mieux. Une seconde conséquence de la théorie épicurienne, c'est que l'homme, formé comme le monde, par le rapprochement spontané des principes de vie, tient du monde tout ce qu'il possède, est fait à son image et n'a rien en lui-même de supranaturel. Que sommes-nous sinon une réunion d'atomes, mais d'atomes plus subtils, plus capables encore de décliner et plus conscients de l'élan intime par lequel ils se meuvent. Notre liberté elle-même, loin d'être supérieure à la nature, n'a son origine qu'en elle et n'est que l'achèvement de son essentielle spontanéité. On ne saurait expliquer autrement, selon Épicure, le pouvoir que nous prétendons tous posséder de choisir entre deux directions contraires, de nous porter librement là où notre volonté nous conduit, de nous arracher en quelque sorte au poids des habitudes ou des tendances acquises. Si toujours tout mouvement nouveau naît d'un précédent dans un ordre nécessaire, si les germes des choses en déclinant ne produisent pas un principe de mouvement qui brise les liens de la nécessité et empêche la cause de suivre la cause à l'infini, d'où surgit chez les êtres vivants sur la terre, d'où surgit, dis-je, cette libre puissance arrachée au destin? Par elle, nous marchons où nous conduit notre volonté. Nous déclinons, nous aussi, nos mouvements, sans qu'on puisse d'avance déterminer le temps ni l'endroit de l'espace, mais comme l'a voulu notre esprit même. Car, sans aucun doute, c'est la volonté de chacun qui est le principe de ses actions, et c'est de là que les mouvements se répandent à travers les membres. On voit quelle unité règne dans la conception d'Épicure. Non seulement le monde se suffit à lui-même, mais il suffit à expliquer l'homme et la liberté que l'homme croit sentir en lui. La nature et l'homme sont tellement solidaires qu'on ne peut trouver chez l'un quelque chose d'absolument nouveau qui manquerait à l'autre. Voulons-nous qu'on reconnaisse en nous-mêmes un principe de spontanéité et de liberté? Ne le retirons pas entièrement des choses. On ne peut pas faire sa part à la nécessité et dire « Elle règne tout autour de nous, mais elle ne règne pas sur nous. » Épicure avoue, dit Cicéron, qu'il n'eût pu poser de borne à la fatalité s'il ne se fût réfugié dans l'hypothèse de la déclinaison. C'est, dit-il encore, par le mouvement spontané de déclinaison qu'Épicure croit possible d'éviter la nécessité du destin. Il mit en avant cette hypothèse parce qu'il craignit que si toujours l'atome était emporté par la pesanteur naturelle et nécessaire, nous n'eussions rien de libre, car l'âme serait mue de la même manière, de sorte qu'elle serait contrainte par le mouvement des atomes. Démocrite, lui, l'inventeur des atomes, avait mieux aimé accepter que toutes choses se fissent par nécessité que d'ôter aux atomes leur mouvement naturel. Démocrite et Épicure sont d'ailleurs aussi logiques l'un que l'autre, le premier admettant partout dans le monde la nécessité, la plaça aussi chez l'homme. Le second, admettant la liberté chez l'homme, se vit forcé d'introduire aussi dans le monde un élément de contingence. Le véritable désaccord entre Démocrite et Épicure roule donc bien sur cette question. Sommes-nous libres ou non? Et plus généralement, y a-t-il en toute chose spontanéité ou fatalité absolue? C'est à cette alternative que se ramène celle de la déclinaison spontanée ou du mouvement nécessaire. C'est ce problème moral qu'Épicure a transporté à l'origine des choses et dont il a fait le problème même de la création. Ni Épicure ni Lucrèce ne se dissimulaient combien ils choqueraient l'opinion en lui proposant l'idée d'une déclinaison spontanée. « Quelle est, demande Cicéron, cette cause nouvelle dans la nature pour laquelle l'atome décline ? Supposez que sans détermination physique ou mathématique, sans force fatale venue du dehors ou placée au-dedans, les atomes dévient et déclinent d'une manière qui échappe au calcul. Cela est incompréhensible. et, tant qu'il s'agit d'atomes, de lignes droites et de lignes courbes, notions purement géométriques, tout l'avantage semble rester aux physiciens. Mais il n'en est plus ainsi, selon Épicure, lorsque, rentrant en nous-mêmes, nous réclamons pour nous cette liberté que nous refusons aux autres êtres. Si on admet l'arbitre en nous, pourquoi le restreindre à nous? Si, là où il n'y a plus de motif assez fort pour nous déterminer fatalement à telle action, on suppose encore une volonté assez puissante pour s'y porter d'elle-même. Et si on ne veut pas voir là de contradiction, on ne devra pas en voir davantage dans le mouvement sans cause extérieure et apparente des vivants atomes. Comment le grand monde qui nous entoure ne serait-il qu'un vaste et inflexible mécanisme si on prétend que notre petit monde est une source vive de volonté et de mouvement? Par cette habile position du problème, Épicure espère enlever à sa solution ce qu'elle paraissait d'abord avoir de contradictoire et d'absurde. L'absurdité, s'il y en a une, est transportée dans la conception du libre arbitre. Étant donné, d'une part, l'apparente nécessité de tous les phénomènes, d'autre part, l'apparente liberté du vouloir et du mouvoir, il est impossible d'éviter le conflit entre ces deux puissances contraires. Il faut accepter l'une et rejeter l'autre. Or, à en croire Épicure et Lucrèce, le choix n'est pas douteux, puisque l'une, nous la sentons, et que l'autre, nous la conjecturons. Placés dans cette alternative, les contemporains d'Épicure essayèrent pourtant de s'y soustraire. On trouve, dans le De Fato de Cicéron, un passage intéressant à ce sujet. Selon Cicéron, Carnéade disait que les épicuriens auraient pu défendre leur thèse contre le déterminisme stoïcien sans avoir recours à la déclinaison. Car, puisqu'ils enseignaient qu'il peut exister un certain mouvement volontaire de l'âme, il eût été mieux de défendre ce point que d'introduire la déclinaison, dont ils ne peuvent précisément trouver de cause. En défendant ce principe, ils pourraient facilement résister à Chrysippe. Carnéade blâme ici les épicuriens d'avoir transporté le problème de la liberté dans l'univers au lieu de le restreindre à l'homme. Ils pouvaient, selon lui, soutenir que l'homme est libre sans placer pour cela la liberté de mouvement dans l'atome. Ils eussent pu dire que l'atome et l'homme se meuvent tous deux en vertu de leur nature propre, sans cause extérieure et antécédente, et substituer ainsi la nature à la nécessité ou à la liberté. Accorder qu'il n'y a point de mouvement sans cause, ce ne serait pas accorder que tout se fait par des causes antécédentes, car notre volonté n'a pas de causes extérieures et antécédentes. Nous usons donc du langage vulgaire en disant que nous voulons une chose ou ne la voulons pas sans cause, car par ces mots, nous entendons sans une cause extérieure et antécédente, non sans une cause quelconque. De même que, quand nous disons qu'un vase est vide, nous ne parlons pas comme les physiciens qui nient le vide, mais nous voulons dire, par exemple, que le vase est sans eau, sans vin, sans huile. De même, quand nous disons que l'âme se meut sans cause, nous voulons dire sans une cause antécédente et extérieure, et non absolument sans cause. On peut dire que l'atome même, lorsqu'il est mu à travers le vide, par son propre poids, qu'il est mu sans cause, parce que nulle cause ne survient du dehors. Mais, pour ne pas être tous raillés par les physiciens, si nous prétendons que quelque chose arrive sans cause, il faut faire une distinction et dire que la nature même de l'atome est d'être mu par son poids, que c'est là la cause pour laquelle il se meut ainsi. Par cette ingénieuse introduction de l'idée de nature, Carnéade croit échapper à cette idée de nécessité sans avoir besoin d'invoquer la déclinaison spontanée des atomes. Selon lui, l'atome ne se meut pas parce qu'une cause extérieure le pousse, ni parce qu'il décline spontanément, il se meut parce que telle est sa nature. De même, pour les mouvements volontaires des âmes, il ne faut pas chercher de cause extérieure, car le mouvement volontaire possède lui-même en soi cette nature d'être en notre puissance, de nous obéir, et cela non sans cause. La nature même est la cause de cette action. Ainsi, par l'idée de nature, c'est-à-dire d'une cause qui ne serait proprement ni libre ni nécessaire, Carnéade espère concilier la régularité des mouvements dans l'univers avec leur liberté arbitraire dans l'homme. Cet argument subtil de Carnéade, que Bell admire, ne peut convaincre les épicuriens. N'est-ce point se payer de mots que d'invoquer la nature comme cause et de soutenir que cette cause n'a pas un caractère fatal, qu'elle ne ramène pas avec elle l'idée de nécessité qu'on voulait écarter. Carnéade croit que si la nature de l'atome est d'être mu par son propre poids, l'atome, en échappant ainsi à une cause extérieure, échappe à la nécessité. Mais Lucrèce répond en distinguant deux sortes de nécessités également à craindre. L'une extérieure, l'autre intérieure, parce que la pesanteur est naturelle, en est-elle moins nécessaire? Et si la nécessité règle seule les mouvements de l'atome, pourquoi ceux de nos âmes y échapperaient-ils? D'où vient cette nouvelle nature de mouvement qui, selon les expressions de Carnéade, serait en notre puissance et n'obéirait qu'à nous? Nos âmes ne sont-elles pas composées des mêmes éléments que le reste de l'univers, et peuvent-elles faire exception à la loi commune? Dans ce débat, c'est Épicure, semble-t-il, qui se montre le plus logique. Au moins est-il intéressant de voir, par ce passage, combien l'idée de liberté a préoccupé les épicuriens, et avec eux, l'Antiquité.